Bonsoir, bienvenue à ce barbecue foot du... Quelle date nous sommes? Le lundi 8 avril. Et oui, le temps file, on se rapproche doucement mais sûrement de la fin de la saison, même si on aura encore deux bons gros mois, ouais, deux mois à peu près, hein, de compétition avant de basculer sur l'Euro. On aura peut-être des petites surprises, on vous prépare... des petits crossovers avec des autres podcasteurs à voir si tout ça s'organise bien, mais on est chaud pour vous satisfaire durant 7 euros. Mais avant tout ça, notre quotidien, la J28 Ligue 1, avant, un peu avant ça, la Coupe de France, parce que c'était les demi-finales en milieu de semaine. Nous connaissons donc la finale qui se jouera après la J38 de Ligue 1 et avant la finale de Ligue des Champions. Ligue des Champions, où on fera une petite preview en même temps du PSG Barcelone, et si les gens aussi un petit mot à dire sur les autres matchs, notamment un vulgaire match entre des maillots bleu ciel et des maillots blancs, si vous voyez de quoi je parle. En tout cas, avant tout ça, et peut-être, parce qu'on a deux amateurs de Premier League, on fera un petit point top 3 PL, parce que ça a encore bougé ce week-end, et parce que ça me permettra de faire râler mon Clément fantôme qui est de retour. Ça va, mon Clément?
Ça va, personnellement ça va. Au niveau football, j'ai connu des jours meilleurs, mais voilà, j'étais pas avec vous pour comment dire, commenter la défaite de Rennes à Strasbourg. Voilà, défaite enchaînant défaite, enfin suivant défaite, on parlera sans doute de celle à Paris, de celle à Monaco, et puis voilà, et puis la première ligue, oui, hein, parce que je crois que notre ami Thierry Ampleur est plutôt, vu son nom, ne supporte pas les vraies équipes de première ligue, mais ce qu'on appelle des fakes.
Ouais. C'est ouais, mais voilà. Bah, vu que.
Oui, non, mais voilà, un week-end un peu contrasté, dirons-nous.
Voilà, ah, vous inquiétez pas, il risque d'avoir un petit peu des décalages parce que j'ai un setup assez tuning ce soir. Parce que quand on n'a pas de tête et qu'on oublie l'adaptateur secteur de l'ordinateur portable et qu'on est loin, on va dire en région, au milieu des vaches et des chevaux, c'est compliqué et que l'ordinateur n'a plus de batterie, forcément. Donc, il peut y avoir des fois des petits décalages qui fait qu'on peut peut-être se monter les uns sur les autres. Donc, mais en tout cas, ça ne m'empêchera pas, justement.
On dit dans les territoires à notre époque.
Ouais, on dit même plus région. Donc, histoire de me faire des amis, je dirais même province, monsieur, si vous le voulez bien, hein, comme ça. Et donc, justement, Clément a vendu la mèche ce soir. On a Thierry Ampleur qui aura sa double casquette Paris Saint-Germain et Arsenal, deux très grands clubs.
En effet. Comment ça va? J'ai arboré mon plus beau maillot pour faire plaisir à Clément. J'avais envie de le voir un peu sourire, peut-être m'insulter en fonction, mais il y a des choses à
genre,
dire.
C'est pas le genre de la maison.
Non, c'est le genre de ton alter ego, pardon.
Voilà.
Je savais plus qui allait venir ce soir, tu vois. C'était soit l'un, soit l'autre, j'ai voulu...
On
prend le risque, on sait jamais. Ouais. On ne fait que se chambrer, c'est pas la même chose.
Voilà,
en exactement. Effet.
Ce n'est que du football.
Et notre quatrième larron, qui est lui plus neutre que la Suisse, et encore, sauf quand il s'agit de comptabilité, et de faire jouer les joueurs à leur poste. C'est notre Carlos Misère à nous. Ça va, mon Carlos?
Ben, ça va. Bonjour, bonsoir. Bon appétit si vous êtes à table. Ça va bien. Week-end de dépressif aussi, entre des défaites horribles de derby. C'est, voilà. Mais bon, les vacances arrivent bientôt et c'est le plus important.
T'as bien raison. Moi, j'y suis déjà. C'est pour ça que je suis avec les vaches. Et je ne parle pas de mes enfants. Hein. C'est autre chose. Allez, on est parti. On a un bon petit programme qui s'annonce devant nous. On est parti sur la Coupe de France. On va commencer par l'ordre chronologique. Et le match qui était le plus déséquilibré entre Lyon et Valenciennes. Victoire, on va dire, logique des Lyonnais hein, sur l'ensemble du match, même si la première mi-temps a été compliquée. Normalement, Valenciennes ouvre le score. Donc, on va dire que c'est plutôt la 23e personne sur la pelouse, et si on rajoute ceux dans le quart, ça peut faire un peu plus, qui avait décidé de faire son peut-être un de ses plus mauvais matchs en carrière, et pour le coup, il y en a quand même quelques-uns, donc c'est quand même pas mal. C'est notre chère Stéphanie Frappard, qui refuse le but de Valenciennes. Je cherche encore l'explication. Franchement, les gars, vous revoyez l'action. C'est O'Brien qui fait faute sur le Valenciennois. Il vient dans sa course, il lui coupe, il manque de le faire tomber. Et paraît-il le Valenciennois qui fait faute. Enfin, moi, j'ai absolument pas compris. Et on va dire que normalement, toute personne normale, je sais pas. Le but doit être accordé. Derrière, le pénalty pour Lyon, le retour. Et bizarrement, quand il y a pénalty pour Lyon, ça va tout de suite un petit peu mieux. Donc, vu que c'est un cadeau, la casette ne se prive pas de le transformer. Et après ça, on va dire que c'est deux faits de match faisant que je pense que Valenciennes se prend un coup sur le nez. Et Lyon est totalement libéré dans ce cas-là. Il n'y a plus le poids des pieds qui tremblent, et dans ce cas-là, ça déroule, et ce qui doit arriver arrive, hein, c'est-à-dire les deux buts suivants sont marqués sans qu'il y ait aucun problème sur l'ensemble du match. Hein, victoire de Lyon totalement normale.
Dès le début du match, oui, oui. Ils ont des occasions assez vite, tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a cette histoire de contre-attaque, de faute, de but refusé, tout ça, mais j'ai quand même l'impression que même si Valenciennes venait à mettre ce but, ils allaient s'en prendre trois. Hein. Franchement, je pense
qu'ils auraient tremblé, très honnêtement.
Et il y avait une ambiance au stade, franchement, plutôt stylée, on va pas se mentir.
Oui, parce que toi, Thierry, tu y étais ?
Ouais, j'ai accompagné un ami lyonnais qui m'a proposé de venir avec lui. Et on s'est pas pris, on était bien devant, on a eu un beau match. Et en plus, on a pu envahir le stade sans se faire cogner par des stadiens.
C'était pas mal. Bon, Clément, Carlos, des choses à ajouter sur ce match où on jette un voile pudique et on passe rapidement sur celui de Paris où il n'y aura pas forcément grand-chose de plus à dire. Hein.
Oui, mais comme ça, tu vois, on aura parlé de la Coupe de France pour la forme, tu vois.
Après, c'est dire que là, ça permet à Lyon de se relancer totalement dans la course à l'Europe. Par contre, c'est demi-finale parce que le fait que maintenant il y ait Paris-Lyon en finale, on sait que la septième place sera qualificative, ou alors si les Lyonnais gagnent la Coupe de France, ils iront directement en Coupe d'Europe. Donc, ma prédiction de, je dirais, octobre-novembre était juste. J'avais lu dans les boules de cristal. Vous vous souvenez de ça?
Oui, oui.
C'est qui, Christelle?
C'est vrai que si à l'époque, tu avais mis...
Ah non, je ne parie pas, mais je, voilà, j'avais lu dans l'avenir. Je vois des choses.
Ah, mm-hmm. J'ai cru que tu avais lu dans les boules d'un mec qui s'appelait Christelle, c'est pour ça que je...
Ah. Dans les deux boules de cristal.
Voilà.
Non, mais Christelle, c'est plutôt rageux,
ma femme s'appelle Christelle.
Ah, voilà. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Généralement, c'est plus le prénom d'une jeune fille qui a tendance à se dénuder pour quelque argent. Hein, ou alors une effeuilleuse ou un transformiste de soirée cabaret.
Ou dans les deux.
Oui, ou alors, c'est déjà dérapé fort.
Ça dérape. Revenons au football.
Les boules sont plus petites quand même.
J'adore.
Revenons au terrain. Ah,
on me dit dans mon oreillette casque que le crossover Euro est annulé. Ah bah bon, voilà. Ça y est, on est pris en flagrant délit. On passe sur la deuxième demi-finale qui était quand même celle qui était un peu plus attendue et indécise. Donc Paris l'emporte 1-0 sans qu'il y ait trop grand chose à dire non plus sur le match. L'épicier en chef Julien Stéphan a reproduit la même tactique que quand Rennes est venu faire le 1 partout en championnat au Parc, sauf que là Peut-être que Paris, on va dire qu'on lui fait une fois et pas forcément deux, a pris la mesure du match et a totalement dominé, même si à la fin, bien sûr, il reste quelques minutes, Rennes se lance à l'abordage et pose des problèmes à Paris, bah surtout avec l'entrée de Milan Skriniar, où on a vu qu'il a fait des étincelles aussi contre Clermont.
Clermont, c'est compliqué. Il prend le temps de réapprendre à jouer au foot. Après, il enchaîne de grosses blessures, hein, le coup, parce que ça n'a pas été évident. Voilà.
Donc quand même, sur ce match, tu as quand même une...
De Bocadou de Marie.
Mais tu as...
Bon match de Mandanda, quand même. Hein.
Oui.
Pardon ? Oui, bon, non, Mandanda était dans le match, mais il était un peu tout seul, quoi. C'est dommage, quoi. On a vu un Mandanda qui a remis sa casquette marseillaise, là, qui s'est dit « Ah, merde, c'est Paris en face !»
Un Mandanda des grands soirs.
Oui, quand il joue contre Paris, Mandanda, il est hyper motivé, ce qui n'est pas le cas contre d'autres équipes comme Strasbourg, par exemple, ce qui est un peu agaçant. tu as raison. Enfin, bon, je dirais pas l'épicier Stéphane, je dirais quand même, c'est vrai que ça
commence à... Quand t'as le matos qu'il a au milieu et en attaque, moi, j'appelle ça faire l'épicier.
Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'il a pas, il a pas tenté d'entrer. Il a préféré, comme tu dis,
faire un match d'attente. Sur le coup, il a vu qu'il avait posé des problèmes à Paris et que ça avait failli réussir en championnat. Parce qu'en championnat, il peut y avoir 2-0 avec les deux contre-attaques et Bourigeaud qui la met à côté.
Je comprends mieux pourquoi son modèle, c'est De Zerbi maintenant. Parce que on a vu Brighton, justement, il y a une semaine contre Liverpool et avant-hier contre Arsenal. Et donc le Brighton de Zerbi, c'est un peu le modèle de Stéphan. Et on voit, quelqu'un qui attend, qui va essayer de jouer sur des contres. Et puis, au bout d'un moment, si l'équipe en face prend la mesure, ça marche pas. Et donc, c'est pour ça que, c'est quoi Arsenal? Ils ont fait quoi? 4-1, je crois? Non, 3-0, oui. Même pas, ils ont même pas mis de but. Donc là, on n'avait même pas espéré que. Voilà. Moi, vu le match qu'ils avaient fait contre Liverpool, je m'étais dit, tiens, Brighton, ils vont peut-être poser des problèmes. Et puis, en fait, non. Mais comme tu dis, voilà. Mais De Zerbi, Stéphane, le même combat. Mais ça peut marcher contre des équipes qui sont à peu près de ton niveau, mais contre des équipes qui sont plus affûtées comme Paris. Voilà. Je dirais plus affûté, plus concerné, plus.
Ouais.
Et comme je le dis, quoi, Omari qui se lève pas le matin alors qu'il a une demi-finale de Coupe de France. Enfin, franchement, tu te dis, mais c'est, on est dans le grand n'importe quoi, quoi. On est dans dans l'amateurisme à tout craint. Donc, malheureusement, on l'a vu contre ce Monaco. Tu remplaces Omari par où? Ça donne pas grand-chose de mieux. Donc. Les problèmes, comme là, c'est pas les boules de cristal de Carlos, mais c'est ce que je disais en début de saison. Quand tu recrutes pas un défenseur soit expérimenté, soit de talent, parce que tu peux avoir des jeunes joueurs de talent. Hein. Je pourrais prendre l'exemple de Konaté à Liverpool, mais quand tu prends pas des joueurs. Qui sont efficaces sur lesquels tu peux compter toute la saison s'ils sont pas blessés, on arrive à ça, quoi. Donc la bourde sur la première faute, sur le penalty, merci Mandanda. Et puis Mbappé lui refait exactement la même chose sur la deuxième action. Là, il se dit, je ne vais pas faire faute parce que ce serait. Voilà. Je ne pense pas que. Voilà,
ce serait quand même un peu con.
Vous me direz quand même là. Mais, il ne va pas se battre. Et puis, il met son pied pour. C'est fatigant. Et devant, il n'y a rien pour. On l'a vu hier aussi contre Monaco. Il y a rien qui vient contrebalancer. Moi, j'aime bien Arnaud Kalimuendo, mais bon, à un moment donné, il faudrait qu'il soit quand même. Il se bat devant, mais il y a un moment donné, faut les mettre les buts. Hein. Voilà. C'est pas tout de se créer des occasions. Donc on a un raid dans le creux de la vague qui arrive au plus mauvais moment, mais fallait s'en douter parce que après le mois de janvier qu'on a vécu, comme disait un grand philosophe footballistique, la roue tourne, hein, comme toujours. Donc voilà.
La roue tourne va finir par tourner.
Voilà, la roue tourne a fini par tourner.
On pense très très fort au philosophe Franck Ribéry, comme tu as pu le signaler. Voilà. Alors, on en profite aussi pour faire un petit coucou au chat, et notamment au GCRM et Jacques Lafrite qui a abandonné son volant pour venir vers le bas peuple, hein, parce que, comme on le sait tous, la Formule 1, c'est quand même pas un sport de prolo. Donc, d'ailleurs, rendez-vous demain. Hein, vous aurez la joie et l'honneur d'entendre ma douce voix et une superbe émission présentée justement par notre Jacques à nous et pas Jacques Ali. C'est pas le même. Je suis en forme ce soir, hein, vous l'aurez remarqué. J'ai mangé du Christophe Dubarry en dessert et j'avoue que c'est calembour sur calembour. Tout à fait. Et c'est pas la montagne qui me gagne. Donc au GCRM qui nous dit justement sur le site, sur le chat, je l'ai pas vu tout à l'heure au niveau de Lyon. C'est vrai que Lyon revient quand même très très bien. Hein, dire que sur les matchs retour sur le championnat, on pourra peut-être en parler tout à l'heure quand on fera la J28. Ils sont à égalité avec Brest, hein, 22 points, juste un point derrière Paris qui a glané 23 points pour l'instant sur les matchs retour. Donc voilà, c'est sûr que ce Lyon-là, moi si je l'avais dit la semaine dernière, hein, on a quand même l'impression que. Ah bah d'ailleurs, ça va nous faire. On enchaîne tout de suite sur la J28.
Des transitions parfaites, c'est incroyable.
C'est ça, donc on va passer directement donc, sur le. Sur notre championnat favori qui est la Ligue 1. La Ligue 1, la Ligue des talents, donc Lyon, donc qui fait encore la performance. C'était mal embarqué, mené 1-0, et puis le réveil du Lyon qui en colle 3 derrière. Ouais. C'est bien, c'est bien ça.
Sur le premier. Un peu de chance sur le premier.
Il faut de la réussite, Carlos.
Réussite, chance. Le problème, c'est que on peut dire que le tournant du match vient de la. Comment dirais-je ? Vient de la. Du duel entre la Cazette et. Comment il s'appelle le jeune défenseur là,
Zézé.
Zézé, oui. Qui avait l'air d'un préservatif géant à la fin du match, mais
la comparaison, waouh,
il était tout en turbané, oui.
C'est ça. Ouais. On dirait qu'il allait faire le plongeon et qu'il allait manquer le plongeon comme les Français pour l'inauguration de la piscine olympique. Mais en fait, tu vois qu'il est que sur les interventions de fin de match, il est quand même moins dedans. Sur le premier but, surtout de la Cazette, où il regarde un peu ce qui se passe. C'est des victoires que Lyon n'arrivait pas à faire en début de saison, qu'ils arrivent à aller chercher maintenant. C'est vrai que Nantes n'a pas montré grand-chose non plus. Hein. Enfin, bravo Comboiré, hein. Chapeau. Chapeau aussi à Keita d'avoir été chercher Comboiré aussi pour la mission fin de saison et sauvetage en Ligue 1. Mais là, ce qui va être intéressant, c'est de voir si avec les derniers matchs face à Paris, face à Monaco, je crois qu'il y a Lille aussi, il me semble, sur la fin de saison. Ça va être vraiment intéressant.
Ouais, je crois que tu as les matchs. Ouais.
Et là, ça va être vraiment intéressant de voir cette fin de saison de Lyon et savoir si face au gros, ils ont réussi à repasser un cap et s'ils vont arriver à aller gagner, aller chercher cette, au moins sixième place.
C'est vrai que tu parles du calendrier. En tout cas, Lyon devait marquer des points contre ceux qui pouvaient marquer des points, mais les quatre prochains matchs, bah, ils jouent seulement le top 3, hein. Brest, Paris, Monaco et Lille. Bah, après, ils finissent bien. Clermont, Strasbourg, pour les deux derniers matchs.
Les quatre matchs, c'est ça, c'est-à-dire que là, c'est vraiment. C'est là aussi où tu te rends compte un peu, quelquefois, de l'effet pervers d'un championnat. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas affronté les quatre premiers, effectivement, ils ont fait quand même une belle série, on peut leur marquer ça, mais là, ça va vraiment être leur juge de paix. Et je pense aussi un peu pour le début de saison prochaine, pour savoir si l'effectif qu'ils ont commencé à mettre en place va pouvoir tenir le coup face au futur gros la saison prochaine. Quoi.
Bah, au moins, je pense, devant, ils ont largement du matos. Ils ont quand même recruté aussi Mangala, Benrahma pour muscler Matic, bien sûr, au milieu de terrain. Mais c'est en défense. C'est en défense. Et c'est un peu c'est le bas blesse de pas mal d'équipes, la défense. Hein. Parce qu'on parlait de celle de Rennes, où depuis le début de la saison, on a quand même indiqué que si Rennes avait une défense, il pourrait jouer largement au-dessus. Monaco, c'est quand même pas oufissime, la défense monégasque. La défense de Lyon, c'est quand même pas foufou. Celle de Marseille, ça tient de briques et de broc. Là, encore plus avec toutes les blessures. Finalement, ceux qui arrivent à peu près à s'en sortir, c'est Brest, parce qu'ils ont pour le coup la deuxième défense du championnat, même s'ils en ont pris trois ce week-end contre l'Ogre Messin. Et Nice, qui est toujours là et qui est à peu près encore dans les places européennes, parce que il y a la défense, même si elle a pas mal craquelé par rapport au match aller.
Ils ne savent pas marquer de but. Hein.
Non. Sinon, pour revenir sur Lyon, et c'est vrai qu'au JSCRM, nous et Carlos avait commencé à en parler avec le duel de la Lacazette. À votre avis, rien, jaune, comme Stéphanie a pu. Non, c'est pas Stéphanie, pour le coup, elle n'est pas dans tous les mauvais coups. Je ne sais plus qui était l'arbitre du
match. Non, c'est Monaco.
Ne leur donnons pas de lumière.
Non, Lyon. Pour moi, c'est rouge. Parce que tu y vas avec le coude, le joueur est ouvert, donc il y a vraiment eu un bon coup de coude. Moi, c'est rouge. Et c'est vrai qu'il y a encore 1-0 à ce moment-là, il me semble.
Le problème, c'est que certains disent que Lacazette ne peut pas les choper la balle. Bon, alors ok, s'il ne peut pas les choper la balle, qu'il essaye de... Mais à ce compte-là, pourquoi est-ce que le défenseur, il va derrière? Enfin, il arrive aussi derrière lui. C'est toujours, en fait, des... c'est ça qui est aussi... comment est-ce que je veux dire ça? Qui est un peu ambivalent, c'est-à-dire que là, tu ne peux pas non plus, quelque part, sauter et essayer de faire une tête sans avoir un mouvement au niveau des bras pour faire balancer. Physiologiquement, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas sauter et rester droit et faire un mouvement de tête. Physiologiquement, tu es obligé de faire un balancier au niveau de tes bras. Donc,
ouais, mais tu commences en haut et tes bras ils descendent au fur et à mesure que tu
montes.
Tu vois que Lacazette, lui, il part du bas, il monte et il garde le coude et tu fais la tête et forcément t'as le coude qui suit, quoi. Donc c'est un geste non maîtrisé. On en a vu des pas mal comme ça. Le mec il finit ensanglanté. Hein, donc.
Après, le vrai problème, c'est qu'en fait, comme tu n'as aucune... comment est-ce que je veux dire ça? Et ça, c'est le problème... Tiens, je vais faire aussi ma première merguez et je vais la faire maintenant. Le problème arbitral, c'est que comme tu n'as aucune ligne conductrice au niveau de ces fautes comme ça, tu vois, parce que des fois, tu pourrais essayer un peu de le décider. Geste non maîtrisé, carton jaune, carton rouge. Tu vois, c'est... Là, en fait, le problème de ces choses-là, c'est comme dans une sorte de flou juridique. En fait, moi, je ne sais pas si je mettrais forcément un rouge. Là, c'est plus, on va dire, le problème, c'est savoir, c'est déterminer si c'est le défenseur qui vient se coller à l'attaquant et l'attaquant qui vient avec ce coup derrière, mais qui peut être physiologiquement naturel, ou alors si c'est vraiment le mauvais réflexe qui fait qu'en fait le joueur qui va mettre le coup à l'autre, qui doit être quelque part qui doit avoir un coup. C'est toujours un peu critique, quoi, tu vois, c'est pas forcément facile. Mais c'est vrai que ça fait encore débat. Il y a certains qui s'enflammaient.
La Lacazette a déclaré que s'il avait pris rouge, il l'aurait bien accepté, quoi. Il n'aurait pas été surpris s'il avait pris rouge sur l'action, quoi.
Et je pense qu'en même temps, il a eu peur un peu parce que il a pas forcément vu quand il a vu le mec saigner, en fait, tu sentais qu'en fait, il a effectivement, c'est ce que tu dis, gestion maîtrisée, mais il n'y a pas une. Le problème, c'est savoir, en fait, quand c'est des duels comme ça, un peu au niveau aérien, c'est savoir où va se situer le défenseur, s'il va coller son attaquant, s'il va se mettre juste derrière. À ce compte-là, tu vois, c'est quasiment impossible de faire une tête. Tu vois ce que je veux dire, quoi.
Ça rejoint les fautes difficiles à arbitrer, comme les attaquants qui ne sautent pas et qui font faire la bascule au défenseur qui, lui, essaye d'intervenir en aérien et qui peut retomber sur les cervicales.
C'est ça.
Donc après, c'est compliqué.
Merguez quand même, parce que je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu encore une réunion au niveau de la direction des arbitres, où on essaye de mettre un peu le sujet de l'arbitrage. Alors pourtant, j'ai défendu les arbitres en France. Je veux dire, parce que je considère qu'en Europe, on a des mauvais, mais c'est un peu de façon générale. Mais là, le fait de vouloir mettre peu les trucs sous le tapis…
Viens taper sur les arbitres avec nous, viens.
Non, mais… C'est au bout d'un moment, tu vois ce qui se passe en Angleterre, en Espagne, je veux dire de partout, ça commence à devenir vraiment problématique. Mais là, la façon dont tu es en train de gérer la fédération, la Ligue 1, enfin la LFP, tu n'as pas de vraie réunion qui se met en place, quoi. Tu n'as pas de vraie discussion.
Tu as les chefs qui se font virer, mais bon, derrière, c'est pas parce que tu coupes la tête que ça va aller mieux en dessous, quoi. C'est toute une philosophie quasiment arbitrale à changer, quoi. C'est à faire aussi à les rendre un peu plus humains. Est-ce que le fait qu'ils viennent, c'est toujours ce que j'ai réclamé, qu'ils viennent s'expliquer. C'est aussi pour ça que j'avais apprécié, par exemple, que Benoît Bastien vienne à la fin du match sur Prime donner sa version du pourquoi, du comment les choses avaient été sifflées lors du classico. Moi, j'ai apprécié. Comme dans quasiment maintenant tous les sports américains, quand il y a une décision, qu'il y a un review vidéo, les arbitres, ils viennent, ils appuient sur un petit bouton, il y a un micro. Quand ils ont fini de regarder la VAR, tu as un petit micro à côté, ils parlent au stade, mais en même temps, ils parlent aux téléspectateurs, ils expliquent leur choix, et ça prend 10 secondes, et c'est fini. Donc, après, tu es d'accord ou pas avec eux.
Oui, et que la direction de la LFP aussi prenne un peu les devants en disant on va passer telle indication au niveau des arbitres pour tel type de faute, genre faute sur Beraldo, faute de Beraldo en Coupe de France sur Aubameyang, non, pas en Coupe de France, en championnat de Beraldo sur Aubameyang. On considère que déjà il y a faute parce qu'il y a charge et puis que c'est une faute qui est annulée. On considère que dernier défenseur, ça va être une faute, est considéré comme faute annulant une occasion de but. Carton rouge, t'es d'accord, t'es pas d'accord, mais au moins, tout le monde le sait, tous les clubs le savent. Après, si le défenseur.
Enfin, tu le sais, mais après, il faut que toutes les situations comme ça soient sifflées de la même façon. Et en fait, je pense que beaucoup de clubs et de gens dans le foot réclament de la cohérence. Parce qu'on parlera de la sortie de Diouf sur Moutiélé. Bizarrement, contre Reims, il y a carton rouge, il y a penalty carton pour Donnarumma. Bizarrement, Diouf sort, il fait quand même une commotion cérébrale à Moutiélé qui est en sang, et il y a même pas penalty. Il y a un moment, et pourtant, tu vois, Donnarumma, il fait une sortie non maîtrisée, mais il vient juste aplatir. Et je pense que tu te prends Donnarumma, c'est quand même, tu te prends un cheval mort sur toi. Hein, le mec qui te plaque au sol, c'était WrestleMania ce week-end. Je pense que tu comptes les trois coups et tu te relèves pas, quoi. Mais par contre, voilà, c'est là, tu as quand même une sortie, tu déglingues le joueur. C'est compliqué.
Comme dit Carlos, l'arbitrage français, il y a une philosophie. Et la philosophie, c'est pas d'être dans la discussion, c'est pas d'être dans le, c'est d'être dans, dans le flicage, dans le. Et ça peut se comprendre aussi.
Tu peux expliquer, c'est-à-dire qu'après tu as les joueurs qui vont dire, tu vas les expliquer, mais ils vont pas être d'accord avec toi. Mais au bout d'un moment, faut aussi avancer, c'est-à-dire que sinon, on installe un zinc sur le bord du terrain et ils peuvent discuter pendant 2 heures. Avant de reprendre le jeu, quoi.
Mais comme si tu essaies de discuter avec un flic, au bout d'un moment, il te dit bon, tu fermes ta gueule, c'est moi qui suis l'autorité. Mais voilà, c'est que moi je pense que voilà, on est dans cette politique un peu voilà, c'est l'arbitre, il a raison, contre vents et marées. Et le problème, c'est que s'il se plante, il y a rien qui vient contrebalancer, donc il y a une.
Il aura 9 en notation au lieu de 10, donc oui.
Voilà, mais je veux dire.
Parce que techniquement, les arbitres les moins bien notés risquent la relégation comme les autres en Ligue 2. Sauf que on a quand même des gens qui sont coutumiers du fait, et je pense que quasiment toutes les équipes, on peut citer un ou deux arbitres qui comptent. Arbitre notre équipe, tu sais que c'est avec une masterclass à l'envers. Exemple, Jérôme Brizard qui arbitre Paris, tu sais que ça va être une dinguerie. Tu sais que quoi qu'il arrive, Mbappé peut se faire faucher dans la surface, il sifflera pas pénalty. Alors que faute équivalente de l'autre côté, au moins, il y aura peut-être appel à la VAR. Après, c'est aussi pareil, il y a la VAR, mecs qui sont sur le terrain sont aussi incompétents dans le car que sur le terrain, donc c'est sûr que ça les aide pas non.
Comme l'a dit Thierry. Les personnalités d'arbitre, t'avais Vautreau à une époque qui était, voilà, parce que le type était lui-même, d'une certaine manière, un personnage un peu, voilà, qui savait user de la diplomatie. Le problème, c'est que les arbitres ne sont pas forcément tous diplomates. Et les joueurs, encore moins. Donc, c'est un truc vraiment à travailler et à dire. À partir du moment où l'arbitre a décidé quelque chose, les joueurs, déjà, vous fermez votre gueule. Et après, voilà, qu'on dise à l'arbitre, personne ne comprend ce que vous avez fait. Mais comme tout à chacun, quand tu fais une connerie, quand tu fais quelque chose dans ton travail et qu'on ne comprend pas, on te dit, expliquez-moi.
Typiquement en NBA, le lendemain, il y a un communiqué des arbitres et qui reviennent sur leur décision et qui disent sur celle-là, on s'est trompé.
Voilà, oui.
Et que dans le feu de l'action, il y a des fois, même avec les reviews, tu as LeBron James du haut de ses 21 saisons.
Je corrige pas complètement.
C'est le souci, c'est qu'il y a des constances quand même.
Mais après aussi, ce qu'on essaie de chercher, ce que certaines personnes essaient de chercher, c'est d'avoir des avis qui soient blancs ou noirs. Et au football, et comme dans tous les sports collectifs, il y a une part d'interprétation qui fait que de toute façon, on ne pourra jamais être d'accord sur certaines fautes. Et certaines choses. Ce qu'on veut, en fait, d'un point de vue français, déjà, ne serait-ce que français, c'est d'avoir une ligne directrice quant à certaines fautes majeures qui sont répétées de façon, qui sont répétées très souvent, et de se dire, quand c'est comme ça, c'est noir ou c'est blanc, faute dernier défenseur, annihilation, l'occasion de but, carton rouge, pour moi. On est d'accord, on n'est pas d'accord.
Attention, dernier défenseur, ça n'existe pas.
Oui, non, mais.
Ça n'existe pas.
En fait, mais tu peux limite l'annoncer comme ça. Tu dis, on considère que c'est une faute, une faute d'annulation d'occasion de but. Enfin, je ne sais plus comment le truc est tourné, mais.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Sur des contacts au niveau de la surface de réparation, je veux dire, tu vois essentiellement des occasions, enfin des fautes qui sont quasiment les mêmes, tu peux dire quand ça sera comme ça, de ce point de vue-là, on considère que c'est faute ou c'est pas faute. C'est clair, c'est net, c'est précis, tout le monde sait où on en est. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire que tu ne sais pas en fait pourquoi les gens disent, comme vous le dites, bon, les décisions sont déjà obscures, et en plus tu sens que derrière, c'est ça qui est le plus moche, c'est que la direction qui est derrière ne donne aucune indication et laisse aussi les arbitres être pédalés complètement dans la semaine.
Ouais, mais il y a aussi une mentalité.
Ils se retrouvent tout seuls.
Moi, je regarde la première ligue, je regarde la Ligue 1, parce que mes deux clubs préférés jouent dans ces deux championnats. Et tu vois, en première ligue, quand même, il y a aussi une mentalité chez les joueurs. Et un joueur qui arrive, par exemple, en première ligue, je sais pas, qui va venir du championnat italien, ou espagnol, ou portugais, ou je ne sais quoi, qui va commencer à se rouler par terre pendant 5 minutes parce qu'il croit qu'il y a eu faute sur lui, ou qu'il y a eu faute et que l'arbitre n'a pas sifflé, ça va continuer à jouer. Et puis, au bout d'un moment, il va comprendre, il va dire, bah non, de toute façon, si vraiment t'as pas moyen de te relever physiquement, enfin, je veux dire, tu peux être blessé, hein, ça arrive. Et là, bon, le joueur reste au sol. Mais si tu, quand même, t'as moyen de te relever, même si tu boitilles un peu, et tu le vois en première ligue, ça, les joueurs jouent.
Mais ça,
c'est après,
ça a toujours été, hein.
Critiquer, tu peux dire, ça a été, à un moment, c'était quand même caricatural parce que tu voyais des mecs qui se faisaient. Enfin, on a connu quand même hein, des défenseurs, des défenseurs centraux. Il y en a un notamment.
Des poètes.
Voilà, le Roy Keane que je voyais commenter le Manchester Liverpool. Ce mec-là, il doit être sympa dans la vie, mais franchement, c'était un gros connard sur le terrain. Voilà, j'irais bien boire une bière avec lui, mais j'aurais jamais aimé le rencontrer sur un terrain. C'est quand même, t'avais quand même des trucs, tu voyais des trucs de fou en première ligue. Enfin, t'avais des mecs qui ont perdu quasiment une jambe. Bon, maintenant, ça reste quand même, puisque les joueurs aussi ont appris il y a un professionnalisme aussi au niveau de, voilà. Mais, le gars qui arrive en première ligue qui dit bah je vais me brûler par terre, bah non vieux, ça non, ça prend pas, et l'arbitre il a joué. Tu peux avoir un joueur au milieu de la surface et puis bah, l'action qui continue à jouer, c'est carré, enfin voilà. Mais en France on voit souvent hein, les mecs qui se roulent par terre et puis qui se relèvent, oui bon, ça reste voilà, faut que ça évolue. Faut que ça évolue des deux côtés. Faut qu'on arrête le côté flic de l'arbitre, et puis faut qu'on arrête aussi que les joueurs, qu'on arrête d'apprendre aux joueurs, comme on faisait en Italie dans les années 90, à se rouler, rester par terre pendant 10 minutes parce que, voilà, on a pris un petit coup, sur le tibia ou la cheville, quoi.
De toute façon, moi, j'ai un peu un théorème qui dit que plus tu as un joueur, plus il y a de roulades sur un joueur sur lequel on vient de faire faute, moins il y a faute. Donc,
oui, voilà.
Ça marche assez bien, parce que si tu es assez en forme pour faire 25 tonneaux, c'est que généralement, t'as pas trop mal.
C'est la caricature bon, de Neymar, allez. Je sais plus, c'était en la Coupe du Monde en Allemagne, non, en 2014. Il n'arrêtait pas, oui, ouais. C'est roulade où il voulait à l'infini.
Allez, on va passer finalement au. On va passer aux deux grosses affiches hein, qu'il y avait quand même sur cette J28. C'était le Lille-Marseille qui avait ouvert la journée donc vendredi, et le Monaco-Rennes de samedi 17h05. L'horaire rennais, hein, je pense que c'est tout le temps dans cet horaire-là pour Rennes.
Voilà.
Sauf s'ils rencontrent un très très gros et encore. Ils peuvent passer. Ah, quoi que non. Le week-end prochain, attention Clément, Rennes joue samedi à 21h.
Ah
c'est pas dimanche.
Ah, bah, je verrai pas parce que je suis au théâtre. Ah, ben voilà. Eh ben,
ah, c'est peut-être pas plus mal hein, contre Toulouse.
entre deux comédies, j'ai choisi.
C'est ça. Donc, on va commencer sur le Lille-Marseille. Marseille, donc après sa désillusion à domicile contre, j'ai envie de dire sa désillusion habituelle à domicile contre Paris. Allez, hop, elle était gratuite celle-là.
Vous embrasse. Hein,
qui se déplaçait donc à Lille, là où il y aura la finale de la Coupe de France. et accessoirement du basket au JO. Bon, c'est à Lille, mais c'est pas dans
le stade. T'égare pas.
Donc c'était quand même assez attendu. Lille qui voulait essayer de grappiller des points en vue de et sécuriser au moins le top 4. Marseille pour pas trop perdre de terrain et essayer de toujours espérer accrocher au moins l'Europe la saison prochaine. Et ben c'est mal barré quand même pour Marseille qui réussit l'exploit de se faire rattraper par Lyon. Donc victoire 3-1 des Lillois. Bon, pas forcément une victoire assez logique, hein, même si Marseille a quand même eu quelques occasions. Lille, pour une fois, a réussi à être clutch, et notamment, alors je pense que quand Cabella marque un but cette saison, il peut rien arriver à Lille. Donc là, il envoie une super frappe enroulée, petit filet de Paul Lopez pour mettre le 2-0. Bon, là, tu avais compris que la messe était dite. La cabane était tombée sur le chien, comme dirait l'autre. Victoire donc logique lilloise. Un petit mot à dire sur ce match, sur le fait que Marseille, quand sorti de jouer les petites équipes, c'est compliqué. Là, ça enchaîne quand même les défaites. Ce week-end, il ne joue pas. Parce que c'est... Non, il ne joue pas. Alors le match est reporté. Attends, je dis des conneries. Bah si. Non, le match est reporté.
Non, c'est le match entre le match. Ah non, c'est ce week-end.
Bah oui, c'est ce week-end. Ce week-end, il n'y a pas de multiplex. Il n'y a qu'un seul match à 15h. Oui. C'est pour parce que nos clubs européens sont avantagés.
Ah bah oui. Donc. J'étais persuadé que c'était entre les deux matchs, tu vois.
Et donc, oui, donc Marseille va. D'ailleurs, c'est un gros match, il me semble.
Marseille-Nice.
Ah voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc, c'est vrai que s'ils abordent pas leur printemps européen de la meilleure des façons, votre avis quand même sur soit Lille, soit Marseille, soit les deux. Avez-vous déjà vu ce match, messieurs?
Non, mais moi, je pense que déjà, j'ai vraiment l'impression que Marseille, ils sont mal barrés pour la fin de saison, honnêtement. Moi, c'est mon avis. Après, bon, hors le fait que je ne les porte pas dans mon cœur, c'est de parler sérieusement. Je pense qu'ils sont assez mal barrés. Il y a les blessures. Je crois qu'il y a eu quelques déclats après le match de joueurs de l'OM qui étaient vraiment... Ouais, peut-être une petite remise en question, je pense, qui doit arriver dans le groupe. Bon, Jean-Louis Gasset, clairement, il a dit la C1, bon, n'en parlons pas. Clairement, je pense qu'ils peuvent dire adieu à la Champions League, qui se contentent de l'Europa ou de la Conference League, parce qu'il y a Lyon maintenant qui est un top qui est derrière.
Thierry, ça me permet de faire un petit point classement, parce qu'on ne l'a pas forcément fait. Donc j'ai dit tout à l'heure, avec tout ça, Lyon, donc sa victoire à Nantes revenait à un point du duo Rennes-Marseille aux 8e et 9e places à 39 points, qui sont un point derrière Reims qui a fait match nul aussi, il me semble, donc à 40 points. Lens, 6e, 43 points. Nice 5e 44 après un nouveau match nul. Donc Lille qui fait la bonne opération avec ses 3 points qui quasi sécurise au moins le top 4 avec 49 points. Ils ont quand même maintenant 5 points d'avance sur Nice qui n'avance pas énormément non plus. Monaco qui fait aussi une bonne opération en gagnant contre Rennes 52 points, et Brest qui ne s'arrête plus 53 points, donc qui revient à 10 points de Paris au lieu de 12 après le match nul parisien contre Clermont. Vas-y Thierry. D'ailleurs, ouais, c'est vrai, quand on regarde cette place-là, donc pour Reims, Marseille, Rennes et Lyon, cette fameuse P7 dont parlait Carlos tout à l'heure devient extrêmement importante. Si Paris gagne la Coupe de France contre Lyon, donc cette place redevient qualificative. Donc pour l'Europa League, non, pour la pour la conférence, parce que pour l'Europa League, ça sera donc la cinquième et la sixième place.
Pour l'Europa League, ça va
peser son pesant de cacahuètes. Vas-y, Thierry.
Non, mais on va avoir une belle fin de saison. Moi, je pense. Moi, ça va être Marseille. Ils sont un peu dans la mouise là. Puis ils sont encore sur un rythme européen parce qu'ils ont encore l'Europa League. Après, est-ce qu'ils vont passer Benfica ou pas, on va pas en parler, on n'a pas le temps. Mais je sais pas. Moi, je cette histoire là, trois coachs en un an. Pourtant, je sais pas, quand ils avaient fait leur recrutement, j'avais quand même l'impression que cette équipe elle pouvait faire chier pas mal de monde, hein, blague à part. Et je sais pas, la mayonnaise elle prend pas, et c'est pas la première fois à Marseille qu'il y a, tu sais, cette espèce un peu de désillusion, tu vois. Donc, je sais pas trop, j'arrive pas trop à savoir quoi en penser, quoi, parce que la question c'est pareil. Enfin, bon, là déjà, tu t'efforces de finir la saison comme tu fais, mais qu'est-ce que tu fais après, quoi, aussi.
Bah, c'est toujours la question qu'on se pose avec Carlos, c'est la continuité à chaque mercato où Pablo et la cellule jouent à foot de mercato coach, en...
C'est vrai que l'année prochaine... Ils n'arrivent jamais à avoir de continuité, ils changent de coach tous les 2-3 mois, genre, j'arrive pas à savoir c'est lequel qui est resté le plus longtemps là, sur les 4 dernières années.
Bah, à chaque fois c'est un an. Sampaoli un an, Tudor un an.
Ouais, mais tu vois, mais le truc c'est qu'en fait, quand un mec ne reste qu'un an, t'as pas le temps de construire un projet, quoi. Un projet, ça prend plusieurs saisons. Il faut garder les mêmes joueurs sur plusieurs saisons, à quelques ajustements près, bien évidemment. Après, bon, moi je suis fan de Paris, hein, je suis pas placé pour parler, mais j'ai l'impression que là ils se sont réveillés sur les 2 dernières années. Mais c'est en général, tu vois. Il y a quand même.
Surtout
y a quand même,
nous aussi, ouais. À Paris, on a collectionné les entraîneurs. Hein.
C'est ça, tu
sur
vois.
Sur les dernières saisons.
Marseille, il a fait quand même beaucoup plus, tu vois.
Après, tu as le contexte de Marseille qui est toujours compliqué pour les entraîneurs.
Très bizarre,
parce que
on te
demande des résultats immédiats, comme dans tous les grands clubs. Donc, et Marseille, je pense que quand tu es coach, que tu arrives en début de saison, on te dit, là, c'est top 3. Top 4 cette saison parce que tu as toujours le tour préliminaire, mais on a vu qu'un tour préliminaire, là en plus on est barragiste, c'est quand même 4 matchs pour aller en phase de groupe.
Demande à Monaco, hein. ça fait des années qu'ils se cassent les dents sur les barrages à Monaco. Donc,
C'est ça, et même on a vu Marseille la saison dernière, toutes les dernières saisons, je crois qu'il y a peut-être... Il y avait Monaco une fois, et je me demande s'il n'y a pas Lyon qui avait réussi aussi une saison. Mais sinon, à chaque fois qu'on passe par le tour préliminaire, on se faisait tancer par les Portugais. C'était compliqué. Oui, oui, vas-y, non, Carlos. T'es coupé la chute.
Mais après, c'est vrai que pour Marseille, c'est quand même extrêmement... Je comprends pas en fait que les gens, tu vois, les émissions qu'on peut écouter un peu pour se renseigner au niveau. T'as l'impression qu'en fait, ils parlent alors du jeu, ils parlent quelquefois des joueurs, mais de cette continuité, de cette absence de continuité, de cette. On s'imagine quand même que Gasset va partir en fin de saison et ils vont repartir
avec
un nouvel entraîneur.
C'est quasi sûr.
C'est quand même. Oui. Mais, et puis même d'un point de vue, moi c'est l'argent, d'un point de vue financier, parce que là, ouais. Il va y avoir des trous quand même. Hein. Ils n'en parlent pas trop, mais il y a certains clubs dont Marseille, ça va commencer à sentir le fumier. Hein. Il va falloir qu'ils quand même, je ne sais pas, McCourt, s'il va encore remettre à nouveau, ça va faire un peu comme le trou de la sécu, où il va remettre un peu des billets un peu par millier pour Marseille. Mais et je sais même pas comment la DNCG va pouvoir accepter l'argent, mais ça va être.
Il y a quand même du potentiel joueur parce qu'ils ont quand même pas mal recruté la saison dernière, moins de prêts. Là, c'est vraiment du recrutement, donc tu peux toujours revendre les joueurs. Mais on l'a vu, hein. Je pense qu'à l'OM, à part peut-être Aubameyang, je pense que. Tout le monde, bah oui, justement. Donc, à la limite, autant le garder parce que le grand attaquant neuf marseillais, on a vu que c'était compliqué. Mais il y a quand même quelques petits joueurs par-ci par-là.
Quand tu vois les saisons qu'ils font, est-ce que ça te donne envie d'acheter ces joueurs-là?
Bah non.
En joueur d'appoint, ça peut voir pour certains clubs. Après, en France, c'est compliqué.
Tu vas pas y mettre des milliers d'essais. Tu vas pas, à part si c'est peut-être un achat à l'Arabie Saoudite et encore, l'Arabie Saoudite a quand même un peu réduit la voilure.
Et encore, l'Arabie Saoudite, ils vont acheter des joueurs, ils vont mettre le paquet sur le salaire, sur des noms. Ils ont acheté des noms l'été dernier.
Ils ne vont pas mettre le paquet sur les joueurs, enfin sur les transferts.
Ah non, c'est pas Verretou qui va faire sauter d'avance. Mais
Marseille, ça commence à devenir très inquiétant pour moi, hein. Même pour le devenir du club.
Une saison sans Europe pour Marseille, c'est toujours une saison particulière.
Et puis, d'un point de vue financier, je le rappelle, il va falloir voir ce que va dire la DNCG au niveau financier.
Mais la DNCG, elle ne dit rien. Si McCourt comble le trou, la DNCG ne dit rien.
Le patron de la DNCG a dit
que... On est à Paris, nous, on est quand même bien placés pour le dire. C'est-à-dire que la DNCG, elle veut juste savoir si tu as les liquidités pour honorer les salaires et ne pas aller en banqueroute. Et si tu as le propriétaire qui arrive, donc M. McCourt, qui dit, voilà mes garanties, je vous garantis donc, voilà, je vous... Ouais, Lyon, c'est quand même... Textor, tu n'étais pas forcément sûr de voir la monnaie. Hein. C'est comme Gérard Lopez à Bordeaux et avant à Lille, c'était compliqué. Paris, ils finissent des fois des saisons, ils ont... La saison post-Covid, là où en plus on a fait passer la saison dernière, où tu as en plus fait passer la prime, les primes de Mbappé, on avait un trou de 200 millions. Est-ce que vous avez entendu parler de la DNCG auprès de Paris, alors qu'on a un trou qui est l'équivalent du deuxième budget de Ligue 1 Non. Donc c'est. Donc voilà. Mais Marseille, est-ce que McCourt, combien de temps il va avoir envie de remettre la main au panier, quoi?
Non, mais la DNCG, elle dépend de toute façon de sa fédération. Donc, de toute façon, si sa ligue ou sa fédération leur dit, laisse couler, c'est pas une entité indépendante. Donc, ça m'amuse.
Techniquement, ça doit l'être, mais le truc, c'est que, on va dire qu'elle a pas la même oreille. Si c'est le président de Lyon, de Lens, de Paris, de Monaco, de Marseille, de Rennes qui viennent lui parler, que si c'est Reims, si c'est Brest, si c'est Clermont. Oui. Je pense que t'as 3 millions de déficit, les mecs, ils t'envoient en National 3, quoi. Donc,
C'est comme les rapports de la Cour des comptes, c'est pas contraignant, quoi. On vous dit oh là là, attention, vous faites un peu n'importe quoi, mais d'ici qu'on t'empêche de faire quoi que ce soit, ça reste
Non, faut vraiment que t'es derrière, t'es des
bref.
Voilà. Mais Clément, tant que je t'ai sous la main, on va passer à Monaco-Rennes. Vu que t'as la langue bien pendue, allez. Donc
Monaco-Rennes, pardon, c'est ça dont on veut parler vraiment. Vraiment, on veut en parler.
Ouais. on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Tu avais commencé en faisant aussi le lien avec la demi-finale contre Paris. Rennes, un peu sur la continuité de ces derniers matchs. C'est compliqué en attaque et en derrière, c'est pas forcément évident, quoi.
Et puis tu te prends un carton rouge dès le retour du vestiaire. Voilà, donc pareil, on peut discuter. Mais voilà, moi j'en ai marre de discuter sur des détails. Moi j'ai envie de voir une équipe qui vient sur le terrain, qui montre de l'envie, qui montre un peu de. Enfin, là contre Monaco. À part dans les dernières 30 minutes, quand on s'est retrouvé à 10 contre 10, j'ai senti un peu, je me suis dit, il y a eu le penalty vérifié par la VAR, etc. Je me suis dit, peut-être qu'on peut au moins aller chercher le nul. Mais c'est fatigant parce que les joueurs, ne font pas ce qu'on attend d'eux. Voilà, Guiri, on attend qu'il soit plus efficace dans la surface, qu'il nous refasse ses gris-gris comme il avait fait. Kalimuendo, c'est très bien, il sait se battre devant, mais jamais il est en situation de marquer un but. Bourigeau, ses coups francs et ses corners, ça devient problématique.
Alors que Slaterier qui s'est pris le rouge, ça prive de au minimum un match, si ce n'est deux.
Voilà, et donc, c'est tout. On nous a promis Monts et Merveilles. On a dit, mais si, l'Europe, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est... Moi, j'ai toujours dit, attendez de voir. On a eu un super mois de janvier, un bon mois de février. Mais voilà, je l'ai dit tout à l'heure, la roue tourne.
Rennes bénéficie d'une bonne fin de saison, entre guillemets, d'un calendrier abordable, parce que dans les top équipes, vous rencontrez uniquement Brest le week-end du 28 avril.
Oui, mais quand tu as joué,
Lens, et Lens, c'est toi. Et les deux, vous les jouez à domicile.
Oui, mais attends, quand tu as joué Lorient chez toi, où tu n'as rien montré, et que tu vas à Strasbourg, et qu'on a été aussi pareil, on a été lamentable, enfin, à un moment donné, je sais pas. C'est moi, je sais pas dans quel sens va cette équipe, quoi. C'est alors on nous a dit, non, on va tout miser sur la Coupe de France. Ok, on joue Paris en demi-finale, mais au moins qu'on essaie, même si on se prend 3-0, on s'en fout de se prendre 3-0 en demi-finale de Coupe de France. Là, on perd 1-0 piteusement. Enfin, c'est sur un non-match. Enfin, sur un match franchement pas en ballon du tout. Enfin, je veux dire, pour Rennes, on n'a pas emballé le match, quoi. Donc, je me dis, pourquoi pas miser sur le championnat? Mais le championnat, on perd contre Lorient, on perd à Strasbourg, on perd à Monaco. Rien n'est joué, parce que, Marseille n'est pas mieux. Lyon...
En face, vous êtes avec des gens qui avancent pas plus vite, quoi. Donc il y a toujours l'espoir.
Voilà. Et puis
après avoir fait Conférence League, d'être monté au niveau de l'Europa, c'est vrai que on attendait Rennes qui allait se battre pour essayer d'attraper la Champions League, qui est finalement l'objectif au moins du club. Et essayer de pérenniser un top 4 en Ligue 1, si ce n'est sur un malentendu, même aller titiller Paris sur une bonne série.
On voit ce que fait Brest et on s'est dit pourquoi nous, on nous promet ça depuis des années. Évidemment que le Stade Rennais, on a vu un Stade Rennais exceptionnel sur des demi, voire trois quarts de saison. Avec Bourigeau, Terrier, avec notre attaque magnifique. Et on s'est dit, pourquoi on ne peut pas faire ce que fait Brest? J'en sais rien, mais...
Tu n'es jamais à l'abri d'une bonne performance des clubs, parce que là, tu vois, en Italie, tu as Bologne, qui pour l'instant est quatrième. Cette saison, tu as Brest, qui est deuxième. En Bundesliga, tu as Stuttgart, qui est troisième. Donc, c'est vrai que t'as quand même des qui est quand même pas un monstre Gironde en Espagne. Tu vois, on va dire que dans tous les cinq grands championnats, tu as au moins une équipe un petit peu surprise, une équipe un peu bonbon vient mettre le dawa dans les top 4 top 6, quoi.
Voilà, mais le seul moment où on a été cette équipe surprise, c'est au moment du Covid, tu vois, avec l'arrêt du championnat, etc., où on a fini troisième. Mais on n'a jamais vraiment été une équipe surprise qui finit deuxième ou troisième, voire qui peut titiller le titre, comme l'a fait Lille ou Montpellier, alors que Rennes a tout à fait les capacités d'aller titiller Paris comme l'avait fait Lille ou Montpellier par le passé. C'est ça qui est agaçant. Mais bon, voilà, c'est le football, c'est comme ça, c'est une saison, maintenant c'est une époque, c'était 36 matchs, maintenant c'en est 34.
38.
C'est
c'était 38, c'était pas 36.
38, là maintenant c'est 34, bah oui, pardon, oui, parce que, oui. Et voilà, et les matchs de Coupe d'Europe, etc. Bon, voilà, le seul exploit, voilà, ça date de 5 ans, c'est la finale contre Paris. On s'en souvient tous, moi j'y étais, je suis très heureux. Mais voilà, on aimerait évidemment que cette équipe. Voilà. Mais en même temps, je me dis, quand je vois comment. Et j'en parlerai tout à l'heure, parce que dans ma merguez chipo peut-être. Quand je vois justement des joueurs comme Omari qui ne se lèvent pas à l'heure pour une demi-finale de Coupe de France, je me dis, il y a quand même des choses à. Il va falloir sortir les joueurs de leur zone de confort à Rennes aussi, parce que les mecs, ils arrivent, ils ont des bonnes conditions, tout ça, ils sont choyés.
Ah, il y a quelques clubs comme ça. Hein. Tu savais que ça à Bordeaux, c'était ça aussi. Voilà. Dans le cadre du Hayan.
Voilà, on vous donne, on met un peu des coups de pied, enfin, je veux dire symboliquement, hein, parce que je suis prof, donc je ne mets pas des coups de pied aux fesses à mes élèves, mais mettre des coups de pied au cul aux mecs et leur dire, on arrivera. Et je me dis que il y a peut-être à côté, tu vois, à Lille, enfin, je vais peut-être même mettre à dos notre ami Jason Boutade et d'autres Lillois, mais le fait d'être un peu à Lille et d'être un peu dans ce voilà, c'est quand même pas la panacée non plus d'aller s'entraîner par des.
Oh, il est quand même pas mal, non, le centre.
Oh, oui, mais bon, il pleut un petit peu quand même, il fait un peu froid, il y a du vent, voilà, de s'entraîner dans des conditions un peu voilà.
Non, c'est vrai qu'à Rennes, il ne pleut pas du tout, quoi.
Non, jamais. Il fait beau tout le temps.
Non, il ne pleut pas, pas en Bretagne.
Je n'ai pas la prétention d'avoir la solution, mais je me dis que on est quand même à Rennes, les joueurs sont quand même bien choyés, etc. Et, voilà. Et que c'est peut-être ça aussi qu'il faut changer, la mentalité, c'est de dire non. Tu meurs sur le terrain pour ton club, c'est ça qu'on veut.
Ouais.
Voilà.
C'est vrai que c'est un peu en voie de disparition, on a l'impression, et c'est vrai que quand il y a eu le dossier des salaires de Ligue 1, bah, je crois que c'est pas la semaine dernière, c'est peut-être encore un petit peu avant, qui est donné par l'équipe. Tu vois quand même qu'il y a quand même pas mal de joueurs en Ligue 1 qui sont extrêmement payés pour le rendement produit. Bon, on va dire ça pour être gentil.
Bon,
et ceux, quel que soit le club. Et ceux, quel que soit le club. Allez, on va aller sur le dernier point. On est déjà à 1h03 d'émission. On va essayer de faire assez vite sur notre production.
Tu vas te casser la gueule, sinon.
Ouais, sur la preview. Mais c'était quand même une émission assez dense. Mais comme d'habitude, on peut pas s'empêcher de digresser. Et moi, le premier. Donc, je ne vous blâmerai pas, messieurs. Je suis le premier concerné. Allez, le petit point preview sur le PSG Barcelone de mercredi. Bon, déjà, est-ce que vous avez une petite preview? Allez, un petit tour rapide comme ça, Thierry, ton prono, juste un score et on argumentera un petit peu après. Chacun votre score.
Ah mon Dieu, tu me mets dans la sauce.
Bon, Carlos.
Allez, 3 en Paris. 3 en Paris.
Tu sais que je ne pronostique jamais. Je vais mettre 6-0 pour Barcelone. Comme ça, moi, je sais que Paris va
gagner. Non, 6-1, tu t'es trompé. C'est 6-1 le score. 3-1 pour Paris. Clément, à ton avis, comment tu sens le truc?
Ouais.
Étant donné que.
Avec Luis Enrique, je me fais pas trop de soucis. Barcelone, on n'entend pas trop parler. Donc, je vois une victoire de Paris, je sais pas de combien, mais je dirais 2-1, allez. On va mettre une victoire.
Ouais. Sachant que les buts à l'extérieur ne comptent plus, que tu gagnes 1-0 ou 2-1, c'est la même. Moi aussi, je vois quand même la petite victoire parisienne.
Je fais confiance à Luis Enrique pour voilà, à la maison.
Ouais, un petit 2-0 bien tassé et quelques cartons jaunes qui font suspendre des joueurs barcelonais pour le match retour, donc, ça, notamment Aroro en défense centrale, ça serait pas mal. De Jong, on n'est pas sûr qu'il joue, mais je crois que tu as Lamine Yamal aussi qui est sous le coup d'un carton jaune.
Ils en ont
6 ou 7.
Ils ont presque une équipe entière qui est sous la menace d'une suspension en match retour. Donc j'espère qu'il y en a qui vont péter un câble ou deux. Et puis après, le plus important sera de repartir avec la victoire.
Ouais.
Et même, tu vois, hors la victoire, franchement, moi je pense qu'il faut vraiment, genre, vraiment une prestation, tu vois, solide. Quoi. Faut un truc un peu.
Il y a un joueur qui est attendu sur cette double confrontation, vu qu'il jouera contre le FC Barcelone l'année prochaine, qui prépare déjà les classicos espagnols. Ben, c'est vrai qu'on attend quand même Kylian sur cette double confrontation. Que s'il y a encore un défenseur central qui s'accroche à son maillot, ça serait pas mal.
Ah putain, qui a l'image.
Généralement, c'est quand même pas le. Il se cache pas sur ce match-là. Et
non.
En général, il se cache pas.
Non, mais en plus, on a quand même bien vu.
J'ai vu qu'il y a pas mal de joueurs qui sont cachés samedi. On espère les voir mercredi.
Ils ont été mis légèrement au frigo. D'ailleurs,
c'est genre ça, non. Mais non, mais je joue au coach. Non, pas toi, là, pas maintenant. Là. Allez, hop. Allez, va t'entraîner. Hein, hop.
Va t'asseoir.
Non. Ouais, mais de toute façon, ça permettra, je pense, de clore un peu cette preview. On est assez. Pas confiant, mais tout du moins, c'est vrai que le paramètre Luis Enrique contre Barcelone, ces Parisiens qui, on sent qu'ils montent quand même en puissance collectivement, un bon Vitinha, un Kylian.
On a des mecs qui sont chauds, tu vois, qui arrivent en forme.
Bah, disons que Paris a mis les meilleurs éléments de son côté. Voilà, aller chercher un Barcelonais pour aller jouer Barcelone, c'est pas mal, quoi.
Et on a récupéré Ousmane aussi qui vient de Barcelone la saison dernière.
Exactement.
Facteur X de Ousmane. Si il se met à marquer des buts, ça peut devenir sérieux. Sinon,
Ousmane, je pense qu'il est rechargé par la Ligue de protection des oiseaux parce qu'il a tué une cinquantaine de pigeons depuis le début de la saison. Donc, c'est possible qu'il trolle les Barcelonais en mettant un doublé.
Moi, ça me ferait beaucoup rire. Mais je suis surtout curieux de voir en fait ce que Luis Enrique va faire pour remplacer Hakimi.
Oui.
Est-ce que Marquinhos va
retrouver sa place
d'arrière droit comme ça on garde Warren Zaïre-Emery au milieu parce que moi je pense que c'est là qu'il serait le mieux.
Je pense qu'il voulait peut-être mettre. Il voulait essayer.
Ah, Moukele est forfait.
Oui, mais justement le fait de ce match face à Clermont, clairement le remettre. Ouais.
Je pense
qu'il l'aurait fait jouer avant. S'il voulait vraiment le faire jouer contre le Barça, il l'aurait fait jouer avant. Là, Clermont, c'est. C'était un match quand même, comment il s'appelle là, Crème Solaire, Carlos Soler, il jouait plus là contre Carlos. Ouais. Donc il l'a fait jouer vite fait, mais je pense que il va, vu que Marquinhos est revenu là, il va le tenter à droite pour pouvoir garder Zaïre Emery au milieu qui est clairement l'endroit où il rayonne le plus sur le terrain et je pense pas qu'on puisse se priver de lui au milieu en tout cas.
Si tu es toujours dans cette optique d'asymétrie au niveau des latéraux, c'est vrai que si tu veux avoir un Nuno Mendes qui vient combiner dans le couloir avec Kylian,
je suis pas sûr qu'il le fasse. Hein. Moi, je serais plutôt un peu moins d'avis comme vous, c'est-à-dire que de mettre quelqu'un comme Zaïre Emery qui est capable de faire un peu ce piston avancé et de mettre en défense Marquinhos, Bernardo
et Lucas Hernandez à gauche, du coup.
À gauche dans ce rôle un peu d'arrière gauche, capeur gauche, et de rester, on va dire, sur quelque chose de connu de la part de. Les deux vont bien.
Je sais pas trop ce qu'il va faire. Il est tellement imprévisible, le mec. C'est deviné.
Pourvu qu'il ne nous fasse pas le 3-5-2.
Je pense pas qu'il ait ça en tête, ça va. Mais c'est quand même, ça reste quand même assez imprévisible. Mais je pense que.
Le 3-5-2, je pense que. Cassé, oui.
Mais je pense mais après, que il faut tenir le résultat là, au Parc des Princes et tout. Je pense que le Barça est vraiment à la portée des Parisiens. Puis
ouais.
T'as quand même l'arme létale numéro une en attaque que peut-être bientôt on n'aura plus. Donc je pense que le truc, c'est que même si l'équipe sur le papier, elle est même pas taillée pour gagner la compète, tu vois, comme t'as l'autre fou là devant, tu sais que tout est possible sur un match à chaque fois. Ouais.
C'est ça. On va pouvoir passer à nos chipots. On n'est pas trop à la bourre comparé ouais, à l'habitude. Nos chipots merguez. Qui veut commencer ?
Alors, je vais commencer par le seul et unique derby qui compte en France. C'est le derby de la Saône-et-Loire ce week-end en National 3. Et où mon équipe, Guignan, a perdu face à l'ennemi juré Louan Cuiseau. 2-1, et en plus avec des histoires de pénalty apparemment, des choses honteuses qu'on ne verrait pas sur des terrains de Ligue 1 bien sûr, parce que les arbitres sont toujours d'un excellent niveau, donc voilà, je me suis retrouvé à suivre sur Twitter, il n'y avait pas de vidéo de ce match au sommet, donc mon petit cœur a été triste, mais en tout cas, ce soir, sachez que Auxerre peut-être pratiquement officieusement en première division. Parce que Auxerre mène à 3 et ils ont quasiment 7 points d'avance à cette journée de la fin. Donc là, on peut dire que c'est
bon. Ça sent bon, comme dirait l'autre. Qui enchaîne merguez,
je vais laisser tirer parce que je vais finir sur un. Non, je vais laisser tirer.
C'est sûr,
vas-y Thierry.
Oui, non, parce que je vais finir sur un truc pas très joyeux, donc.
Alors, moi j'étais en train de réfléchir, mais j'ai envie de parler de Kai Havertz.
Oh putain. Parce que... Ah, j'en étais sûr. Ah là là.
J'ai hésité à parler de Kobbie Mainoo à Manchester, mais je pense que j'attends une autre émission parce qu'on pourra parler de lui longtemps, lui, ça va. Mais moi je trouve que. Il a eu un début de saison très dur. On lui a beaucoup chié dessus quand même. Mais en général quoi. Il a énormément été discuté depuis son arrivée à Arsenal, ou même on savait pas trop où il jouait. On le voit latéral gauche avec l'Allemagne. Puis à un moment il faut au milieu, Arteta le faut au milieu, puis il faut en attaque, etc. Mais je trouve que là depuis quelques mois il est sur la deuxième partie de saison. En tout cas il est monté en puissance petit à petit et il trouve son rôle. Et il marque des buts, et il est pas dégueu. En plus, moi, j'aime bien son profil, parce qu'il est grand, il fait plus d'un mètre 90. Et moi, j'avais envie de louer sa saison, qui au début partait mal, et qui maintenant est pas mal, et qui en plus, encore buteur avec Arsenal ce week-end, je crois. Donc voilà, pour le plus grand plaisir de Clément, j'aime bien citer un joueur d'Arsenal, mais c'était soit ça, soit un joueur de Manchester, que je fasse lequel.
Non, bah, Arsenal, ça va mieux. Manchester, ouais. Pas d'écrit.
Voilà, Kai Havertz.
Kai Havertz, ouais. Bravo, si t'es un Allemand. C'est beau, c'est beau, on s'en rappellera.
Ça marche.
Voilà.
Bon. Donc, et Clément, si tu veux finir, je vais faire ma merguez, si tu veux clore le tour. Bah, moi, on en a pas parlé parce que finalement, on n'a pas fait de points sur le PSG Clermont qui a fait couler quelques litres d'encre, notamment chez les présidents de clubs qui jouent la non-relégation, et notamment Roussier, ancien président de Marseille. Mais qui est aujourd'hui président du Havre, qui s'est vendu d'un texto et de sortie, et donc après il a été invité dans tous les talk-shows qui vont bien, qui était mécontent du fait que Paris mette l'équipe B contre Clermont parce que on trompe la fin de championnat, on permet à Clermont de peut-être prendre 3 points. Qui serait vraiment très intéressant pour eux en cette fin de championnat, sachant que le Havre joue aussi à Paris en cette fin de saison. Donc, on va juste dire à ce monsieur qui s'occupe de son club, hein, et de pas celui des autres. Paris, contrairement à lui, dans les 28 journées actuelles, s'est donné le droit de faire tourner, surtout après un enchaînement classique, coupe de, demi-finale de Coupe de France et avant un quart de finale aller de Ligue des Champions. Donc oui, Monsieur Roussier, on fait tourner. Et je vais pas dire et on tend, si tu me passes l'expression. Oui, parce que Paris, justement, s'est donné le droit. Ce n'est pas notre faute si derrière, ça n'avance pas. On avait 12 points. On fait tourner. On n'a pas entendu ce monsieur faire des déclarations comme quoi Paris pourrissait la fin du championnat quand on a commencé à mettre Mbappé sur le banc pour le faire souffler ou le faire commencer sur le banc ou qu'il ne joue pas du tout. Là, dans ce cas-là, on l'a pas entendu dire qu'il y avait des problèmes. C'est apparemment Paris doit mettre l'équipe type et ne doit pas faire tourner contre les 5 derniers du classement pour ne pas fausser le championnat. Bon, apparemment, il n'est pas au courant que c'est pas lui qui fait l'équipe et que et donc ouais, et bien il sûr, il a dit qu'il ne voudrait que... Qui voudrait pas déplacer le. Voilà, alors, il faudrait juste dire à ce monsieur que sur les deux dernières journées, parce que je crois que Paris rencontre Le Havre à la 33e, tu ne peux pas décaler le match, sauf si les deux équipes n'ont rien à jouer. Parce que justement,
de toute façon, il a dit que les deux derniers. Pas décalé, il a dit.
Non, mais de toute façon, la Ligue, s'ils font quelque chose, ils lui demanderont pas son avis. C'est eux qui fixent les dates des matchs. Le PSG, Lorient, enfin, ou c'est le Lorient PSG, d'ailleurs. Oui, c'est le Lorient PSG. J'ai eu la joie de voir au parc le PSG Lorient en début de saison, donc c'est le Lorient PSG. Là, on l'a pas entendu dire quoi que ce soit sur le fait que le match était décalé. Donc, pourtant, tu joues Lorient. Parce que là, justement, Paris, si tu décales Lorient, il peut mettre l'équipe type. Et donc là, apparemment, ça ne le gênait pas. Mais qu'il ne s'inquiète pas, si on joue Lorient en milieu de semaine, on fera tourner. Hein. vous inquiétez pas. Donc, que ce monsieur s'occupe de son équipe et lui dire aussi que la saison dernière, Paris a perdu au Parc contre Lorient 3-1 et contre Clermont 3-2, avec sur le terrain Messi, Neymar et Mbappé. Donc, et sachant qu'en plus, c'est vrai qu'on n'avait pas parlé du match tout à l'heure, Paris finit le match contre Clermont à 2,62 d'XG. Donc, normalement, Clermont a eu un peu plus de chance que d'habitude. D'habitude, les vieux dégagements qu'ils font, ça finit, ça tape dans le dos d'un copain et ça rentre dans le but. Là, les mecs étaient un peu plus concentrés, donc Paris n'a pas forcément aussi été réaliste. On fait quand même deux barres transversales. Voilà, t'as quand même, même une équipe B pouvait gagner. Tu fais un partout.
Avec l'équipe B, on leur casse la bouche. C'est pas grave.
Avec un pénalty oublié, on l'a dit tout à l'heure, avec la faute du gardien sur Moukielé. Et sachant que je ne sais pas si ça va être acté ou pas, parce que j'ai pas entendu s'il y avait un rapport ou non, parce que il y a eu tout un débat sur le fait que tu avais quatre sessions de remplacement faites par Clermont, et que finalement celle de la 45+8, ça serait un protocole commotion. Donc une session commotion, si elle est déclarée en tant que telle par le club, elle ne compte pas dans les trois sessions de remplacement. Et donc c'est pour ça qu'il y aurait eu quatre sessions, mais il faut que ça soit indiqué dans le rapport de l'arbitre. Et si c'est pas le cas, bah peut-être que Paris va finalement gagner contre Clermont sur tapis vert. et dans ce cas-là, Monsieur Roussier sera content et Clermont aura un point en moins. Clément, vas-y.
Ouais, alors moi c'est une merguez chipo parce que en fait je vais évoquer la mort d'une personne. C'est comment il s'appelle, Olvec, qui est décédé aujourd'hui, l'ancien président de Rennes et de Nancy. Il est mort d'un cancer. Il est à peine plus âgé que moi.
Oui, 52 ans, c'est ça
Voilà, 52 ans, il est de 71, moi je suis de 72, donc voilà, il était tout jeune, hein, donc il avait déjà, il était en retrait du club, donc on avait eu, c'est pour ça qu'on a Cloarec, alors j'ai beaucoup de choses à dire sur Monsieur Cloarec, mais je ne les dirai pas ce soir. Voilà, qui ne me donne pas entière satisfaction. Olvec, lui, par contre, était un président. On dit beaucoup de mal. Enfin, on dit beaucoup de mal. Non, mais on dit souvent les présidents. Oui, voilà, les présidents, les propriétaires. Enfin, c'est souvent un peu notre cible, hein, parce que ils disent un peu tout et n'importe quoi. Hein, il y en a des bien connus. Justement, Olvec, lui, c'était quelqu'un qui connaissait le football, qui était apprécié de ses pairs, qui était apprécié d'un peu tout le monde dans le foot. Et à Rennes, il n'y est pas resté longtemps, malheureusement, parce que sa maladie s'est déclarée assez rapidement. Et voilà, il a quand même apporté quelque chose de nouveau à Rennes, parce qu'il a succédé à Olivier Létang, qui est un petit peu quand même, qui a une connaissance du football, mais un petit peu quand même, un peu offensive. Et lui était un peu plus, voilà, dans la diplomatie, voilà, ce qu'on apprécie aussi. Et c'était quelqu'un, je pense que c'était quelqu'un qui, au quotidien, était un grand bosseur et, voilà, qui a appris son métier à Nancy, hein, auprès de, alors j'ai oublié son nom, mais du président mythique de Nancy, Carlos, vas-tu m'aider? Non, quand Nancy voilà, tournait bien, et après qui a été à Monaco, voilà, et malheureusement, donc évidemment on adresse nos condoléances à la famille et voilà, c'est toujours voilà, dommage de perdre quelqu'un de talent dans ce domaine, enfin dans le football, quoi. Donc voilà, c'était juste voilà, je voulais finir sur une note un peu un peu triste, mais en même temps voilà.
Ah mais c'est un hommage, c'est pas triste.
Voilà, hommage voilà à quelqu'un parce qu'il a vraiment consacré toute sa carrière au football. Enfin, c'est quelqu'un qui a fait des études avant, mais qui est toujours été dans le football et qui connaissait le football. Et moi, je pense que ce genre de personne va manquer franchement au football. Et voilà. Donc, un petit salut voilà, à Nicolas Olvec.
Excellent.
Ça marche. Ouais. D'ailleurs, ouais. Ça me permet de faire une autre petite merguez. C'est la banderole du CUP qui lèche cul au possible envers la direction, le directeur sportif et l'entraîneur pendant le match PSG. Alors, on s'est moqué de la banderole marseillaise en début sponsorisée par Amazon Prime pour l'humoriste du coin pendant le Classico. Ouais. Mais alors, celle-là. Elle est venue de nulle part et j'avoue, quand j'ai vu ça, j'étais mais les mecs, retourner sa veste aussi rapidement, c'est un métier. Hein. Ne reproduisez pas ça chez vous, ce sont des professionnels. Vous pouvez risquer de vous luxer une épaule. Hein. Non, mais les mecs, il y a 3 mois, ils voulaient tout brûler et là, c'est les meilleurs du monde. Enfin, le CUP n'a pas encore brillé par son intelligence. Les mecs ont redonné vie au Parc des Princes, parce que si vous avez connu la suite du plan le prou pour vider le Parc des Princes, ou tout du moins la saignée pour préparer la mariée à la vente au Qatar, si vous avez connu la période 2011-2016 au Parc des Princes, où c'était un théâtre où il n'y avait pas un bruit, ils ont quand même remis de l'ambiance. Et j'ai envie de leur dire que, comme tous les supporters, contentez-vous de supporter et laissez la politique aux professionnels, s'il vous plaît. Même si vous pouvez avoir votre mot à dire. Mais à un moment, on va dire qu'il y a des banderoles qui, bizarrement, rentrent plus facilement que d'autres dans les stades. Voilà. Je pense que on a fait le tour comme il fallait.
Oui, on peut finir là-dessus, c'est très bien.
On peut finir là-dessus. Est-ce que je ne sais pas encore si s'il y a des gens qui sont motivés, comme pour faire la dernière fois, un petit podcast débrief à chaud du PSG Barcelone. Mercredi.
Moi, jeudi, je ne travaille pas.
À 23. Jeudi, à 23h, si ça mérite. Ou si Carlos, t'es chaud, on peut faire ça à deux, une petite demi-heure. Si Clément, si t'es chaud verra, patate hein. aussi.
Ouais, verra pour partir, si je vais m'enlever.
Et s'il y a des autres merguezers qui sont chaud patate, un Christophe Dubarry, pourquoi pas. Ou un Jacques Lafitte qui pourrait reprendre son pseudo côté foot et venir discutailler avec nous. Voli-volou. Carlos, un petit point podcast étoile, like comme d'habitude. C'est vrai qu'on n'en a même pas parlé, on est rentré.
N'oubliez pas les 5 étoiles, c'est important. Ouais. Le petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir.
Ouais.
Et voilà. Et sur toutes les applis de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, je ne sais plus lequel va bientôt finir. Spotify, il me semble que Deezer,
Pocket Cast,
des commentaires. Podcast Addict, hein. ça remonte, ça nous fait remonter au niveau des recommandations et vous aurez la choix de nous écouter encore plus. Donc, c'est
formidable. Voilà. Et ça marche. Et pendant qu'il y a nos deux compères, la semaine prochaine, le petit bracket NBA, hein, parce que la NBA se termine ce dimanche. On a au moins les dix équipes de chaque côté. Maintenant, à savoir dans quel ordre elles vont finir. On vous dira ça, on vous prépare un autre petit bracket de professionnels merguezers.
J'ai regardé les Knicks là dernièrement et j'étais affligé, mais bon.
Ah, et Clément, alors il y aura peut-être une petite surprise quand tu vas nous écouter parce qu'on ne sera peut-être pas trop.
Alors là, il y a quelqu'un qui est content.
Wait and see.
Ça marche. Messieurs, bonne soirée. Merci encore d'être venu. On verse l'eau sur les braises. On éteint le barbecue. Et bonne soirée. Bonne journée.
Ciao, ciao.
À tout le monde.
Bonne soirée.